La revue Maine Découverte vient de sortir dans les kiosques. Dans cette revue, nous voyons l'or des Jacobins, nous parlerons de patrimoine, de momies, nous parlerons également de Syrie et d'un Sartois très peu connu en Sarthe, mais très connu au plan international. Il s'agit de Marcel Jousse. Et pour nous parler de cette revue, nous accueillons aujourd'hui Gilles Kervella, directeur. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons éplucher en quelque sorte cette revue. L'or des Jacobins, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
Ben, l'or est là utilisé dans son sens large, c'est-à-dire que c'est l'or concret, c'est-à-dire qu'il y a des bagues, des bijoux, des pièces de monnaie, voilà. Donc ça, c'est l'or, l'or métal, et puis l'or au sens général du terme, à savoir que ce sont des fouilles qui ont révélé le passé gallo-romain de la ville du Mans de manière absolument extraordinaire. Et Pierre Chevet nous en relate troisième et dernière tranche. L'année dernière, dans Maine Découverte, on avait déjà fait un sujet sur ces fouilles, et là, donc le chantier archéologique est clos, place à l'avenir justement avec l'espace culturel.
Alors qu'est-ce qu'il a trouvé exactement dans ce dernier chantier ?
Alors dans le premier chantier, il y avait la découverte extrêmement importante d'une voie gallo-romaine qui reliait l'ancien théâtre romain qui est toujours situé. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une pérennité des lieux quand même, parce que le théâtre romain est à quelques mètres de l'ancien théâtre du Mans. Et cette voie reliait ce théâtre, ou cet amphithéâtre, au lieu de culte qui est la cathédrale. Mais avant la cathédrale, il y avait certainement un temple primitif. Donc cette voie reliait ces deux endroits. Et puis là, un carrefour, dernière tranche, il trouve une deuxième voie verticale qui est un peu parallèle à la route de Bonnétable, à la route des Maillets, à la route qui monte vers le musée de Tessé, qui est un peu parallèle. Voilà. Donc on est à un endroit qui est déjà prédéfini par les Romains. Et il y trouve également un édifice cultuel absolument rarissime en Europe, dans lequel il trouve environ 400 pièces de monnaie qui sont des offrandes, évidemment, aux dieux de l'époque.
Donc ça a été une surprise pour lui ?
Véritablement une surprise. Et puis les différents fours de potier, les différents objets, les fameuses plaquettes de défliction, là, qui sont des plaquettes en plomb que l'on gravait, dans lesquelles on enfermait des cheveux pour jeter, et on pliait ces plaquettes de plomb, on les jetait à l'eau également pour jeter un sort à la personne dont on voulait beaucoup de mal, quoi.
Donc on apprend beaucoup sur la civilisation.
On apprend beaucoup sur les origines de notre ville. On peut regretter une seule chose, c'est que le temps et l'argent font que ce chantier s'est arrêté au niveau gaulois. Plus on descend, plus on remonte dans le temps, c'est bien connu. Et évidemment, là, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout vraiment de ces recherches. Mais on a déjà quand même, ça fait faire un pas de géant dans la connaissance de l'histoire de notre ville. Et puis on y a retrouvé c'est photographié dans Maine Découverte, c'est des choses très émouvantes, comme les traces d'une paire de chaussures dont il ne reste que les clous. Mais c'est parfaitement conservé, et donc c'est quand même, ça date de 2000 ans quand même.
Oui. Il y a de très belles photographies que vous avez faites, Gilles Kervella.
J'ai suivi le chantier très régulièrement, moi-même passionné par l'archéologie, et on a suivi, on a une documentation extrêmement importante dans le domaine.
Donc Pierre Chevet a donné une conférence la semaine dernière à ce sujet. Est-ce qu'on va les découvrir un jour, tous ces...
Oui, parce que d'abord, il y a beaucoup d'objets muséables. Donc, ils seront en restauration. Ils sont en restauration pour certains. Et lorsque, effectivement, ces restaurations seront fixées, terminées, il est évident que le Carré Plantagenet doit ouvrir ses vitrines à ces objets qui ont été découverts à quelques mètres. Ouais. Hein, faut pas oublier qu'on est quand même complètement dans l'histoire même, dans le cœur d'histoire de notre ville.
Donc finalement, cet espace culturel, c'est une bonne chose pour découvrir l'histoire.
Mais les chantiers modernes sont une très bonne chose pour l'archéologie. Évidemment, on ne peut connaître le passé qu'en déterminant l'avenir, quoi.
Alors deuxième sujet au niveau de l'histoire, on va peut-être s'arrêter aux momies du musée de Tessé.
Oui, les momies. Alors évidemment, là, on est avec Charles de Montulé, qui est un homme, qui est un militaire, qui est un homme qui est né à côté, juste à côté du Mans, en banlieue du Mans. On est tout début 19e siècle. Napoléon Ier a des velléités vraiment de d'étendre l'empire au-delà du raisonnable, d'ailleurs, et au-delà surtout des frontières. Et il monte plusieurs expéditions guerrières, mais également des expéditions culturelles, on va dire. Mais elles sont souvent guerrières, mais ses armées étaient accompagnées de chercheurs, de savants, et Montulé, le Manceau, fait partie de ces expéditions. Et il découvre l'Égypte, il monte sur, à l'époque, on pouvait monter sur les pyramides. Donc il est vraiment un des précurseurs, et il rapporte dans ses bagages des momies, des sarcophages qui sont étudiés a posteriori et qui sont toujours visibles, évidemment, maintenant dans l'espace qui est dévolu à la partie égyptienne au musée de Tessé. Et puis une petite anecdote à raconter, l'ancien, ce qui n'était pas encore le musée de la reine Bérengère, possédait une momie, et ce premier petit musée était gardé par un couple de gardiens dont la femme était complètement, qui avait un esprit un peu déréglé, et lorsqu'elle montait à l'étage, au deuxième étage du musée, elle tombait régulièrement sous cette momie, et elle était persuadée qu'elle lui avait acheté un store. Donc elle passait ses nuits à déambuler dans le musée pour essayer de contrecarrer ce sort. À tel point que elle devenait complètement, complètement folle, et son mari, n'en pouvant plus, a alerté les autorités municipales, qui ont pris la décision de faire disparaître cette momie. On ne sait pas ce qu'elle est devenue.
On ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Absolument pas, mais on sait ce qu'est devenue la femme. Elle a terminé ses jours à Étoque de Mazy, donc à l'hôpital psychiatrique du Mans.
Voilà, donc ça c'est pour l'histoire Souvenir d'Outre-Tombe. C'est un article d'Étienne Bouton, puis avec bien sûr les photographies que vous avez faites.
Non, là ce sont les photographies des services photographiques des musées.
Voilà. Alors, on peut continuer aussi sur l'histoire. Il y a plusieurs pages, notamment Roger Lecoq aussi, qui est conservateur, ouais, qui nous parle de 4 tableaux.
Oui, 4 tableaux extraordinaires, parce qu'il s'agit de Georges Latour. Tout le monde connaît Georges Latour, c'est un immense peintre français dont on possède certainement une œuvre majeure, l'Extase de Saint-François, qui est, bon, il est le maître du clair-obscur, c'est un véritable grand peintre français. Et puis, d'autres tableaux ont transité par la Sarthe. Alors là, on n'a pas vraiment l'explication. Pourquoi ces tableaux, pourquoi 4 tableaux quand même de Latour passent par la Sarthe, vivent en Sarthe dans différents châteaux, Asnières-sur-Vègre, Degré, Coulon-sur-Gé, passe aussi par la ville, certainement Solesmes aussi. Donc on a on appelait ça les tribulations de 4 chefs-d'œuvre, parce que on ne sait pas pourquoi exactement. Donc on a retrouvé, il faut savoir quand même que la Diseuse de Bonaventure, qui est un des tableaux majeurs de Georges Latour, et la propriété du Metropolitan Museum of Art de New York, et a vécu longtemps en Sarthe, au château de Galrande, au château de Degré dont je parlais tout à l'heure. Et je suis allé photographier ces châteaux et j'ai vu l'endroit où ce tableau, qui a été vendu une somme faramineuse, mais qui était chez nous, à côté de chez nous, et personne ne s'en rendait compte. Alors, sauf un marchand français très 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 documenté, et qui n'a pas hésité à le vendre aux États-Unis.
Donc il y a plusieurs articles sur les tableaux, et notamment aussi l'autopsie d'un tableau. Alors on ne va pas pouvoir tout présenter à l'antenne, Gilles Kervella. Et puis il y a aussi des sujets comme autour de Marcel Jousse. Je voudrais quelques mots sur Marcel Jousse. Alors il n'est pas connu en Sarthe.
Non, il n'est pas connu en Sarthe.
Mondialement,
mais,
oui.
Mais il est étudié, son travail est étudié dans toutes les grandes universités mondiales. Il est très connu en Amérique du Nord, où il a vécu un petit peu aussi. Il a étudié la gestuelle, le langage des gestes des Amérindiens. Et il est le grand partisan, le grand inventeur de la théorie. Il met en relation le geste et la mémoire. Et pour lui, il regarde les Juifs apprendre la Torah, par exemple, en se basculant d'avant en arrière. Il regarde les Arabes qui ont exactement la même attitude en apprenant le Coran. Il voit les Amérindiens. Il se nourrit de tout cela et puis il trouve qu'en fin de compte, avec une gestuelle d'avant en arrière, de gauche et de droite, on assimile beaucoup plus la connaissance. Voilà. Donc, et lui, il en tire une théorie de pédagogie pure auprès pour les enfants, et il se trouve être le chef de file d'un mouvement comme ça d'anthropologie qui permet aux gens d'apprendre plus facilement par la gestuelle.
Alors ce sera peut-être plus facile pour les enfants pour apprendre la table de multiplication peut-être.
C'est pas idiot. Alors il est mort à Fané-sur-Sarthe en 1961, c'est pratiquement un illustre inconnu chez nous, c'est quelqu'un de fondamental dans l'histoire de la pédagogie.
Alors Gilles Carvella, dernier sujet, c'est un livre qui va paraître aux éditions de la Rainette, là, qui s'appelle « Les toqués de la Sarthe ». Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Oui, c'est un drôle de titre, mais parce qu'évidemment il s'agit là de 22 chefs voilà, qui évidemment portent des toques, donc c'est un titre un peu rigolo, qui nous a fait rencontrer avec Emmanuel Bordeaux 22 chefs, hommes et femmes, il y a quelques femmes, en Sarthe, dont le dénominateur commun de la cuisine est l'utilisation à 80-85% de produits frais. Ce ne sont pas des assembleurs, comme on dit vulgairement dans le métier, c'est-à-dire des gens qui achètent des produits déjà manufacturés et qui les assemblent avec des sauces qui sont déjà préparées. Non, ce sont des gens qui achètent du frais et qui transforment ce frais en produits consommables. Donc c'est quand même une éthique importante. Alors dedans, il y a des très grands chefs, très connus. Il y a le Beaulieu, évidemment, le seul étoilé de la Sarthe. Mais il y a également des gens peu connus dans le sud de Sarthe, par exemple. Il y a deux femmes qui s'appellent les Mères Cocottes à Beaumont-sur-Dème, qui ne sont pas beaucoup moins connus que le Beaulieu, mais qui pratiquent une cuisine avec cette même éthique. Et donc on a fait des reportages tout le mois de mai, juin, ensemble, et j'ai photographié sur place évidemment les chefs et puis leurs recettes, et puis j'ai fait 22 grosses compositions en studio à partir des ingrédients qui rentrent en ligne de compte dans ces recettes.
Et donc ce livre va sortir quand exactement ?
Il sort dans tous les kiosques et toutes les librairies et maisons de presse de la Sarthe le 3 octobre, le lundi 3 octobre, date de la présentation chez Ricordo avec les 22 chefs. Ça va être un moment gustatif et festif.
Eh bien, merci Gilles Carvella. Et d'ici là, on peut se procurer Maine Découverte qui vient de sortir également, L'or des Jacobins.
Merci beaucoup.